Le grand jour des expiations. C'est là le titre de mon message aujourd'hui. On va tourner dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 4, où Dieu nous parle des fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. On voit ici que Dieu a déterminé 7 fêtes. Il y a 7 fêtes qui étaient mentionnées dans l'Écriture au temps fixé par Dieu lui-même. Cela correspond à des choses, à des temps bien précis dans l'histoire. Chacune de ces fêtes, en réalité, s'est accomplie dans un temps bien précis de l'histoire. La fête de la Pâque, qui devait avoir lieu le premier mois, le 14e jour du mois. La Pâque, c'est l'agneau qui était immolé entre les deux soirs, et on sait que cela représente Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix de Golgotha. La Pâque a été accomplie par Jésus-Christ. Dans un temps bien déterminé de l'histoire, cette fête s'est accomplie. Elle s'est réalisée. Jésus-Christ a donné sa vie en rachat pour sauver son peuple, pour sauver ses brebis. C'était la première fête. C'est ça qui a commencé toute l'histoire de l'Église, entre autres. C'était le premier mois, le premier temps de l'Église. On sait que cette fête était ensuite suivie de la fête des pains sans levain. Au verset 6, et le 15e jour de ce mois, c'est-à-dire le jour qui suivait, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. La fête des pains sans levain nous parle de ce que Christ a accompli en nous. Les pains sans levain, c'est nous qui avons été purifiés par Christ. C'est l'œuvre de Christ en nous. La Pâque a fait que le péché qui était sur notre vie a été enlevé par Christ, et comme résultat, le Saint-Esprit est venu et a fait de nous une pâte nouvelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La Pâque, Christ a été immolé, entraîne un peuple à sa suite, un peuple qui n'a pas de levain, qui est purifié, qui a été sanctifié par Jésus-Christ, qui a été justifié par Jésus-Christ, qui a été assagi par Jésus-Christ, qui a été racheté par Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la Pâque. Les pains sans levain, la deuxième fête, c'est nous, c'est le peuple de Dieu purifié qui commence son existence au premier temps, au premier mois. Et si on retourne dans Lévitique 23, le verset 9, on voit que la troisième des fêtes qui suivait la fête de Pâques et la fête des pains sans levain, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. » Ça, c'était la fête de la gerbe, les prémices, qui était aussi appelée la fête des prémices, qui parle du lendemain du sabbat de la Pâque. le jour de la résurrection de Jésus-Christ, le lendemain de la Pâque, le troisième jour. Cela parle de la résurrection de Christ et qui entraîne aussi la puissance de la résurrection sur les siens. Nous vivons de la puissance de la résurrection de Christ, du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce même Saint-Esprit est maintenant venu sur nous. Cette fête s'est accomplie à la résurrection de Christ. C'était aussi le début de l'histoire de l'Église. La puissance de la résurrection de Christ, puissance du Saint-Esprit qui vient sur l'Église. Tout ça, c'était le début de l'Église, le premier temps, le premier mois de l'Église. On voit ensuite que parmi ces fêtes-là, il y avait comme trois épisodes principaux. Un premier épisode au premier mois, un deuxième épisode au troisième mois, et un dernier épisode au septième mois. Parce que les sept fêtes de l'Éternel étaient réparties sur trois mois. Sur le premier mois, sur le troisième mois et sur le septième. Au troisième mois, c'était la fête de la Pentecôte, la fête des semaines. Au verset 15, Lévitique 23, 15, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. » Remarquez, le troisième mois, c'était une nouvelle fête. Un nouvel épisode important, c'était ce qu'on appelle la Pentecôte. On sait que la Pentecôte, au 50e jour après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres dans la chambre haute. Ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Mais en réalité, cette fête des semaines s'accomplissait le troisième mois. Il y a quelque chose de spécial ici. Le troisième mois. Cela nous parle de la troisième période de l'Église, qui était, par rapport à l'Apocalypse, l'Église de Pergame, la troisième Église. Et on sait que dans l'histoire, la troisième Église a commencé au jour de Constantin, où l'empereur romain Constantin est devenu chrétien supposément, et cela a apporté sur l'Église un air de paix. Au lieu que l'Église était persécutée, a enfin connu une ère de paix et même plus, l'Église est devenue puissante aux yeux du monde. Elle avait même une autorité. Constantin a obligé les gens à devenir chrétiens. C'est une image ici. Cela s'est accompli au troisième mois, c'est-à-dire au troisième temps de l'Église, à la troisième période de l'Église, à la troisième Église. L'Église qui allait entrer dans la paix, qui allait passer de la persécution à la paix, qu'elle allait avoir une autorité, une puissance sur ce monde. Mais remarquez qu'à partir de ce moment, le pain était avec du levain. C'est-à-dire que le levain allait entrer dans l'Église. Et c'est ce qui s'est accompli. À partir de ce moment-là, où l'Église a été en paix, où l'Église est devenue puissante, le levain est entré aussi dans l'Église. Le levain du mensonge. Le mensonge a commencé à se mêler à la vérité. Le levain de l'impureté, de la méchanceté. Les prêtres, les évêques ont commencé à dominer sur le peuple et ont commencé à devenir dominateurs. Tout était entre leurs mains. Ils ont commencé à opprimer le peuple, à le persécuter et même à tuer des gens pour le nom de Jésus. C'était l'inverse. Le levain est entré dans l'Église. Et là, a commencé pour l'Église une grande période de noirceur, ce qu'on appelle le Moyen Âge. L'Église a débuté un temps où le monde est entré dans l'Église et l'Église qui était pure et sainte a été corrompue, salie de l'intérieur. Elle a perdu sa virginité. Elle a perdu sa pureté. Le levain est entré. Ça, c'est arrivé au troisième mois en 313, exactement quand l'empereur Constantin, avant de faire une bataille, a vu une croix et une voix lui a dit « Si tu prends ce signe, tu vas vaincre. » À partir de ce moment-là, il est devenu comme chrétien et il a donné puissance et autorité à l'Église pour régner avec lui. Ce fut le début de la décadence de l'Église. Ça s'est accompli. Il y a eu un moment historique. De même que la Pâque s'est accomplie au premier mois, un moment historique, la fête des semaines, de même, s'est accomplie historiquement quand l'Église a laissé entrer le levain au milieu d'elle. Que dans les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, on voit qu'il s'emmenait quelque chose de spécial pour le septième mois. Tout ça était prévu par Dieu. Cela devait s'accomplir. Qu'est-ce qui arrive le septième mois? Il y a à nouveau trois autres fêtes. Lévitique chapitre 23, à partir du verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Le premier jour du septième mois, c'était la fête des trompettes qu'on appelait. On voit dans l'Apocalypse que l'avènement des trompettes, des sept trompettes, arrive dans un temps marqué par Dieu. Au temps marqué par Dieu, sept trompettes vont sonner une après l'autre. Le temps, le jour des trompettes va arriver, qui est au septième mois, c'est-à-dire au mois dernier, au mois de l'accomplissement de toutes choses. À la septième période de l'Église, parce que l'Église a été destinée à passer au travers de sept périodes, sept temps de l'Église, pour être parfaite, pour être devenir à l'image de Christ, pour parfaire sa formation, parce que Dieu a un temps prévu pour toute chose. Et au septième mois, le jour des trompettes, il devait y avoir des trompettes qui devaient sonner. Sept en réalité. On le voit dans l'Apocalypse. Les sept trompettes sonnent à partir de Apocalypse chapitre 7 jusqu'à Apocalypse chapitre 12. On voit les sept trompettes de Dieu sonner. Mais on voit aussi, en Lévitique chapitre 23, verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Le jour le plus solennel en Israël. Le jour où le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint. Le lieu où il entrait seulement une fois par année. Non, avec sa propre justice, il ne pouvait entrer qu'avec le sang de l'agneau. Et il faisait expiation pour le peuple. Le mot expiation veut dire couvrir. Ça vient de kappa qui veut dire couverture. Les péchés étaient comme couverts. Comme si Dieu ne les voyait plus parce qu'il voyait le sang de l'agneau. Il regardait à nous, il ne voyait plus nos péchés, il ne voyait plus les péchés du peuple. Il voyait le sang de l'agneau qui a accompli une parfaite justice, qui a couvert nos péchés, qui les a effacés. Ils ne sont plus. C'est comme si les péchés n'existent plus parce qu'ils sont couverts. C'est ce que veut dire l'expiation. Or, ce jour des expiations devait arriver seulement le septième mois. Il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Il y a quelque chose qui doit arriver pour nous, pour l'Église, à la fin des siècles, à la fin des temps, ce qui est proche, qui doit arriver un jour où Christ lui-même va entrer dans le Saint des Saints pour faire l'expiation pour les péchés de son Église qui s'est éloignée de lui, pour les péchés de son peuple d'Israël qui s'est éloigné de lui, qui l'a abandonné. Parce qu'il y a un temps de rétablissement de toutes choses. L'apôtre Pierre l'avait prophétisé, il y a un temps où Dieu a prévu rétablir toutes choses. En Actes chapitre 3, le verset 19 à 20, à 21, l'apôtre Pierre nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Que le ciel doit recevoir Jésus-Christ jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jésus venait juste de dire à ses apôtres, En Actes chapitre 1, quand les apôtres lui posaient la question, verset 6, Actes chapitre 1, verset 6, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Jésus lui répondit au verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Le Père fixe les temps et les moments de sa propre autorité. Et il sait qu'au septième mois, qu'à la fin de l'époque de l'Église, il y a le rétablissement de toutes choses. Le jour des expiations doit arriver où les péchés de son peuple, de son Église, et les péchés de son peuple terrestre, qui est l'Israël terrestre, les péchés des Juifs vont être pardonnés, couverts. Parce que si les Juifs ont rejeté leur Messie, l'Église n'a guère fait mieux. L'Église est devenue tiède, mondaine, a laissé le levain rentrer au milieu d'elle. Elle aussi, elle est coupable. Elle aussi, elle a rejeté son Messie. Elle a rejeté les voies du Seigneur. Mais Dieu a promis de faire expiation de son peuple. Et on le voit en Apocalypse. On voit le jour des expiations arriver dans un moment précis. Apocalypse 11. Cela arrive quand? À la septième trompette. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et qu'est-ce qui se passe au verset 19? Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Le temple dans le ciel fut ouvert. Le temple était ouvert pour faire expiation. C'était le jour des expiations qui devait arriver après le jour des trompettes. Le grand jour des expiations où Christ fait à nouveau expiation dans le ciel en apportant son propre sang pour dire à son Père, « Seigneur, pardonne les péchés de mon peuple qui m'a rejeté, qui m'a oublié. Pardonne-leur à cause du sang versé pour eux. Pardonne-leur. » Le sang a été versé il y a 2000 ans, mais le jour des expiations est encore à venir. C'est un temps particulier où Christ va rétablir toute chose, parce que le rétablissement de toute chose n'est possible que par l'expiation. L'expiation, c'est ce qui déclenche toute chose. C'est la miséricorde de Dieu pour sauver les siens et pour juger le monde. Cette miséricorde de Dieu est à deux facettes. Cela avait été prophétisé de tout temps par les anciens prophètes. Ésaïe, chapitre 4, le verset 1. Et cette femme saisira en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Cette femme, cette église, il y a cette église dans l'Apocalypse, saisiront à ce jour un seul homme, Christ. Ce seul homme, c'est Christ. Ils diront, enlève notre opprobre. L'église, à cause du levain qu'elle a laissé entrer en elle, est en opprobre au milieu des nations. On ne voit plus le salut que Christ a promis. On ne voit plus la délivrance que Christ a promis. La puissance du Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre comme elle devrait être dans son Église, comme cela a été promis que les signes et les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Oui, on voit ici et là quelques miracles encore, mais ce n'est pas ce que Christ a promis. Christ a promis beaucoup plus. Il y a comme un opprobre qui règne sur l'Église à cause de son péché, à cause de sa faute. Ce qui fait que le peuple, ceux qui aiment Dieu, ceux qui craignent Dieu au milieu de son Église, crient vers lui. Il s'élève un cri vers Dieu pour voir à nouveau le salut que Christ a promis à son Église, pour que Christ à nouveau pardonne les péchés de son peuple. Ça dit au verset 2, Ésaïe 4, verset 2, « En ce temps-là, le germe de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël, et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints, sans levain. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. » Ça, c'est le jour des expiations. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. Le sang de Christ a été versé il y a 2000 ans, mais cette période de l'expiation est pour les croyants des nations et pour les croyants juifs. Cette période d'expiation est proche. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'expiation entraîne deux souffles, deux manifestations de l'Esprit de Dieu. Le souffle, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu à l'action. L'expiation de Christ dans le ciel, quand Christ va faire expiation pour son peuple, et que l'arche de l'Alliance, que la gloire de Dieu va à nouveau se manifester parmi son peuple, il va y avoir deux souffles qui vont se répandre. Le souffle de la justice. Le souffle de la justice pour ceux qui vont se convertir de leurs péchés, ceux qui vont se repentir de leurs péchés, pour ceux qui vont s'humilier. Dans Isaïe 59, ça nous dit bien qu'un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux qui se convertiront de leurs péchés. L'expiation ne prendra effet que pour ceux qui vont se convertir de leurs péchés. Isaïe 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Et cette expiation va ne prendre effet parmi les gentils croyants et parmi les juifs croyants que pour ceux qui se convertiront de leurs péchés. Il va y avoir un souffle de la justice, un revêtement de justice, où Dieu va effacer les péchés de son peuple et à nouveau manifester l'arche de son alliance, c'est-à-dire sa gloire. Et cela va entraîner automatiquement aussi un souffle de destruction pour ceux qui ne se convertiront pas. On le voit, la fête des expiations était une fête très solennelle. Si on retourne dans Lévitique, chapitre 23, il y a là des avertissements solennels. C'était le jour le plus solennel de toutes les fêtes que Dieu avait ordonnées à Israël. Lévitique 23, le verset 28. « Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. » Au verset 29. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. C'était au contraire de toutes les autres fêtes où il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Cette fête de l'humiliation, cette fête des expiations était au contraire un jour d'humiliation. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai au milieu de son peuple. Adieu. C'est quelque chose de très sérieux. Cette fête revêtait un symbolisme très sérieux. C'était un jour où l'on devait s'humilier. Pourquoi? C'était prophétique de l'Église aujourd'hui, de l'état de l'Église aujourd'hui. C'était prophétique de l'état du peuple d'Israël aujourd'hui, où Dieu s'apprête à faire l'expiation pour son Église rebelle, son Église mondaine, pour son Église tiède. Dieu s'apprête à faire expiation pour son peuple juif qui l'a méprisé, qui l'a rejeté. Mais il y a une condition, c'est de s'humilier. C'est de reconnaître que cette justice-là ne viendra pas de nous. que nous avons péché, que nous méritons juste la condamnation, que nous méritons la colère de Dieu, mais qu'à cause du sang de l'agneau, la justice peut venir sur nous, qui ne la méritons aucunement. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera un ouvrage quelconque ce jour-là, je la détruirai. Aucune œuvre. Dieu dit, c'est pas par tes œuvres que tu vas recevoir ma justice. C'est pas par tes œuvres que tu vas recevoir ma sainteté. C'est une grâce. C'est une pure grâce de Dieu. Il faut que tu t'humilies. Repos. Repos, dit l'Éternel. Repose-toi de tes œuvres. Remets toute ta vie. Remets ta vie entière entre les mains de Christ. C'est lui ta justice. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon que tu es agréé devant Dieu aujourd'hui. C'est à cause de l'expiation de Jésus-Christ. Et ces deux points-là, de s'humilier et de ne faire aucun ouvrage ce jour-là, c'est ce qu'on appelle le renoncement à soi-même. Cela équivaut à la porte d'entrée, la porte étroite dans laquelle le Seigneur nous a ordonné de rentrer si on veut avoir accès au royaume. S'humilier, renoncer à toute forme de justice, de sagesse, renoncer à sa propre force, à sa propre sagesse, à sa propre sainteté. Reconnaître que nos œuvres ne font rien là-dedans, que c'est une grâce de Dieu. Qu'il faut se reposer, faire confiance dans le repos et la tranquillité que sera ton salut. Ésaïe chapitre 30. Se reposer en lui, lui faire confiance et s'humilier. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 8, ça s'adresse très bien à l'Église d'aujourd'hui, à l'Église de Laodicée, à l'Église tiède d'aujourd'hui. Jacques chapitre 4, à partir du verset 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Comment on s'humilie devant Dieu? En sentant notre misère. En reconnaissant que nous ne sommes rien, que notre rire se change en deuil, qu'on l'on reconnaisse que nous ne sommes pas dignes de paraître devant Dieu, que ce n'est pas à cause de notre justice et de notre sainteté que nous serons agréés devant Dieu. C'est seulement à cause de l'expiation de Christ. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains, pécheurs. Approchez-vous de Dieu. De purifier nos cœurs de toute forme de méchanceté, de purifier nos pensées de tout mensonge que l'ennemi a semé, toute illusion, amour du monde. Au verset 11, Jacques nous dit « Ne parlez point mal les uns des autres frères. » Autrement dit, arrête de pointer ton frère ou ta sœur. Reconnais que le problème est en toi. Le problème, c'est le « moi », c'est ton « moi ». Humilie-toi, renonce à toi-même. Renonce à toute ta gloire, à tout ton honneur, à toute ta sagesse. Humilie-toi. Reconnais que c'est par pure grâce, si tu peux accéder au trône de Dieu aujourd'hui, au trône de miséricorde, c'est par pure grâce. Il n'y a rien de toi là-dedans. C'est Christ qui a accompli et tu ne le mérites pas. Et nous tous, nous devons nous humilier. Humilier de notre âme. Reconnaître que nous ne sommes rien, que nous avons besoin de cette expiation. C'est comme ça que des temps de rafraîchissement peuvent revenir sur nous. Il dit, repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement, convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous et que le Père puisse renvoyer vers nous du ciel, Christ, afin de rétablir toutes choses. C'est la volonté de Dieu que toutes choses soit rétabli comme il a prévu, comme il a promis. Et il y a un temps pour cela. C'est le jour des expiations qui amène son peuple à revenir vers lui, qui amène parmi son peuple un grand deuil, qui doit amener parmi son peuple un grand deuil, un deuil de notre condition actuelle, un deuil parmi les croyants non-juifs et parmi les croyants juifs aussi. On voit ce deuil dans Zacharie chapitre 12, à partir du verset 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Le jour des expiations, le jour où une grâce spéciale va être faite envers les Juifs et envers les non-Juifs, pour se repentir, pour s'humilier. Un jour de deuil, un jour de supplication, un esprit de grâce et de supplication pour permettre à cette expiation accomplie par Christ dans le ciel de prendre effet sur terre, en nous. » Il dit en ce jour-là, au verset 11, « Le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil. » Et là, ça nous dit au Zacharie chapitre 13, verset 1, « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Une source de vie, une source de pardon, une source de guérison va être ouverte pour les Juifs. Et pour les gentils aussi, car l'Église n'est pas mise de côté. L'Église est devenue un avec Israël, et l'Église a autant besoin de se repentir qu'Israël même, car notre tiédeur a fait que Christ a été obligé de nous vomir de sa bouche. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse à la septième Église. Christ l'a vomi de sa bouche, mais ce n'est pas un rejet total. Ce n'est que temporaire pour l'amener à se repentir. Parce qu'on voit, après, Jésus va dire, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu a une promesse de rétablir toute chose après le jour de l'expiation. Après ce jour qui doit s'accomplir dans l'histoire et qui est proche. Et c'est ça qui va amener, justement, un esprit de justice parmi les siens, ceux qui vont se convertir de leurs péchés, ceux qui vont s'humilier, ceux qui vont renoncer à eux-mêmes, ils vont avoir un souffle de justice, un revêtement de justice qui va venir sur eux. Et du même coup, un souffle de destruction va venir sur ceux qui ne s'humilieront pas. Ils vont être retranchés. Zacharie 13, verset 2. « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays le nom des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. » J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. » Dieu va purifier son peuple et en même temps, il va avoir un souffle de destruction pour ceux qui vont désobéir, ceux qui ne s'humilieront pas. Il y a un temps fixé par Dieu pour cela. On voit aussi dans Michée chapitre 7, à partir du verset 11. « Le jour où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie, des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Peins ton peuple avec la houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il pèse sur le Basan et en Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses. Avec toute leur puissance, ils mettront la main sur leur bouche. Leurs oreilles seront assourdies. » Au verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage, et ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob et de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » Ça nous parle ici dans Michée d'une période particulière où le peuple d'Israël terrestre, qui va être amené à se convertir de son péché, va être entraîné dans le désert. Comme au jour de sortie des pays d'Égypte, Dieu va entraîner à nouveau son peuple juif dans le désert pendant 3 ans et demi. Ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, après ce jour des expiations, où le peuple juif va s'être revenu au Seigneur, le peuple qui va s'être humilié, qui va accepter d'être conduit dans le désert à nouveau par la main puissante de Dieu, va être protégé pendant 3 ans et demi, loin du dragon, de l'antéchrist, qui va régner sur toute la terre. Parce qu'après la fête des expiations, il y a une dernière fête, qui est la fête des tabernacles. La fête de Soukhot, la fête des tentes. Et cette fête-là nous parle de la tente, de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, de cette tente qui doit être transformée à l'image de Christ. Parce qu'après la fête des expiations, viendra 2 événements. Les Juifs qui vont être emmenés protégés dans le désert pendant 3 ans et demi, qui vont avoir à nouveau habité sous des tentes pendant 3 ans et demi, ça va être la fête de Soukhot qui va se réaliser pour eux. Et en même temps, ça va être pour les Juifs, pour la racine, pour Israël, les racines d'Israël qui sont les Juifs. Mais pour les branches d'Israël qui sont les gentils, les croyants gentils, eux vont être enlevés. Les croyants de toutes les nations vont être enlevés à la rencontre du Seigneur. Certes, il y aura peut-être une courte période de tribulation. On voit Apocalypse chapitre 13, au verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » L'Antéchrist va s'acharner contre la femme, mais étant donné qu'il ne pourra rien faire contre la femme, il va s'acharner contre sa postérité, contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et ça va être les vrais croyants. Il va s'acharner pour essayer de les détruire. Mais on voit, le Seigneur dit, « Levez votre tête, car votre délivrance approche. » Apocalypse 14, au verset 14, on voit l'enlèvement arriver. « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. » Et sur la nuit était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fausse tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta fausse et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa fausse sur la terre, et la terre fut moissonnée. Quand Jésus a été enlevé sur les nuées de devant ses apôtres, au jour après sa résurrection, après 40 jours, ça dit, les anges ont dit aux apôtres, ce Jésus que vous avez vu être enlevé sur les nuées va revenir de la même manière. Et là, on le voit revenir sur les nuées. C'est la seule place dans l'Apocalypse qu'on voit Jésus revenir sur les nuées. Il vient avec une fausse tranchante. Il vient récolter, rassembler son blé, son peuple. Ces croyants de toutes les nations. Parce que les croyants juifs, eux, sont gardés dans le désert pendant 3 ans et demi. Mais l'expiation, c'est le temps des rétablissements de toutes choses. C'est le temps où la rédemption de Christ va aussi atteindre notre corps physique. En un instant, nous serons transformés, comme dit l'apôtre Paul. En un instant, à la dernière trompette. Parce qu'on voit, avant ça, la dernière trompette a sonné. Donc, le temps de Dieu est arrivé. C'est une courte période où Dieu dit « Lève la tête » parce que c'est proche. En un instant, à la dernière trompette, nous serons enlevés. Il y a la moisson. Après la fête des expiations, vient la fête des tentes, des tabernacles, où les Juifs croyants qui représentent les racines terrestres d'Israël sont emmenés dans le désert, protégés, et où les croyants gentils qui représentent les branches d'Israël vont être enlevés vers le ciel à la rencontre de l'époux. Ils vont être transformés en un instant. La tente physique dans laquelle on est, cette tente faible, cette tente vulnérable, va être transformée en un instant en une tente de gloire. Nous allons revêtir le corps glorieux par-dessus l'autre. Mais tout cela, remarquez bien, tourne autour de l'expiation. C'est ça qui fait que l'expiation peut devenir possible en nous, dans notre vie, le renoncement. La clé pour entrer dans ce que Dieu a pour nous, dans ce temps, dans cette période de l'histoire très importante, nous sommes en train de vivre quelque chose qui est unique dans l'histoire. Tout comme les apôtres ont vécu quelque chose d'unique quand ils ont vu Jésus mourir à la croix, puis qu'ils ont vu la résurrection, tout ça, c'était toute une période unique qui n'allait s'accomplir qu'une seule fois dans l'histoire. Nous, de même, à la fin des temps, nous allons voir des choses s'accomplir qui ne vont ne s'accomplir qu'une fois dans l'histoire. La fête des expiations, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tentes. Ces trois choses qui s'accomplissent le dernier mois, le septième mois, la dernière période de l'Église, nous allons voir s'accomplir ces choses-là. Et c'est important de prendre la disposition nécessaire pour bénéficier, pour entrer dans ce que Dieu a pour nous autres. Et ces deux conditions, tous ceux qui s'humilieront et qui ne feront aucun ouvrage ce jour-là, le renoncement à soi-même que Jésus a parlé, c'est primordial. C'est la porte d'entrée. Si nous ne passons pas par là, nous serons retranchés. Nous serons comme les vierges folles que Jésus va fermer la porte et ne pourront rentrer. La porte va être fermée parce qu'ils n'ont pas passé dans la porte étroite lorsque le temps de passer dans cette porte était là pour eux. Il faut s'humilier. Il faut sentir notre misère, comme dit l'apôtre Jacques. Il faut renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre propre justice, purifier nos mains, purifier nos cœurs, reconnaître que tout nous vient de lui, que cette justice nous vient de lui, que nous n'avons aucun honneur, aucune gloire au-dessus de qui que ce soit d'autre, que nous ne sommes pas meilleurs de qui que ce soit d'autre. C'est juste par la justice de Christ, par son expiation, qu'il est possible de rentrer dans sa présence. Sophonie, chapitre 3, au verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun corps. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront et se reposeront, et personne ne les trouvera. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. C'est la porte d'entrée. S'humilier devant Dieu. Reconnaître nos fautes, se convertir, changer, changer nos pensées, renoncer à notre sagesse, renoncer à notre force personnelle, à nos richesses. Parce que plusieurs se vantent de leurs grandes richesses, se sécurisent en leurs richesses. Et qu'est-ce que l'apôtre Jacques nous dit? Malheur à vous, riches, qui avez accumulé des richesses dans ces derniers temps. Ce n'est pas le temps de s'accumuler des richesses. C'est le temps de s'humilier, de renoncer à tout ouvrage, de tout délaisser de côté, au contraire, pour recevoir cette expiation qui est l'or céleste. Venez acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, Jésus disait à la septième église. Cet or céleste, c'est le cadeau de Christ. Mais il faut s'humilier, il faut renoncer à nous-mêmes, renoncer à toutes nos œuvres. Accepter d'aller acheter gratuitement cet or céleste. Pas la richesse terrestre, l'or céleste que Christ a pourvu pour nous. Sophonie 3, 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a détourné tes châtiments. Il a fait l'expiation. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. L'Éternel a détourné tes châtiments. L'expiation va se faire pour son peuple. Son peuple qui comprend et les juifs et les gentils. Les croyants juifs et les croyants gentils qui sont devenus un. Parce que Christ a brisé les murs qui séparaient les juifs des gentils. Il a brisé, il en a fait un seul homme nouveau. Nous ne sommes plus deux, nous sommes un. Alors c'est normal qu'ensemble, nous vivions ce retour à Dieu. Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu autant que les Juifs se sont éloignés de Dieu. Nous avons autant besoin de miséricorde maintenant que les Juifs en ont. Et c'est pour cela le jour des expiations, ce grand jour prévu par Dieu pour ramener son peuple, mais ceux qui vont se convertir, ceux qui vont s'humilier, qui vont renoncer à eux-mêmes. Ne manquons pas ce grand moment de l'histoire. Ne passons pas à côté de cela. Ne soyons pas de ceux qui font la sourde oreille, qui disent « Ah, je suis riche, je n'ai besoin de rien », comme l'Église de la Laodicée. Ne soyons pas parmi ceux-là. Apocalypse 3, verset 17. « Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas. Tu ne t'humilies pas. Tu penses que ta richesse va être suffisante dans les jours qui s'en viennent. Ne sais-tu pas que l'Antéchrist, tu ne pourras plus ni acheter ni vendre. Toute ta richesse ne valera plus rien. Ça va valoir zéro quand l'Antéchrist va paraître sur terre. Même si tu es millionnaire, tu ne pourras plus ni acheter ni vendre. Penses-tu que tu vas te sortir par ta richesse de l'épreuve qui s'en vient sur la terre? Nullement. Le seul moyen de se sortir de cette épreuve, c'est de s'humilier. C'est d'aller acheter, comme il dit au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » L'or éprouvé par le feu, qui vient de l'expiation de Christ. Le vêtement, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Sois honteux de ta nudité spirituelle. Tu n'es rien, tu n'es pas à la hauteur de ce que Christ te demande. C'est pour cela que tu as besoin de cette justice qui s'obtient seulement par la foi. Tu as besoin de renoncer à toi-même, de t'humilier, et de t'attendre à lui, de t'approcher de Dieu, afin qu'il te donne cette justice. C'est le chemin du renoncement. C'est le chemin qui permet à l'expiation de Christ de venir sur nous et nous transformer. Il y eut un cri, et toutes les 10 vierges se réveillèrent. Le cri du réveil est proche de se faire entendre. Le cri qui annonce l'expiation vient pour tous. Humiliez-vous. Approchez-vous de Dieu. Ceux qui vont passer par cette route vont entrer dans la porte. Ils ne passeront pas à côté de l'enlèvement. Ceux qui vont s'humilier parmi les Juifs, ils vont suivre Dieu dans le désert. Parce qu'il va avoir un chemin tracé. Ils vont le suivre. Ils vont s'enfuir dans le désert. Ils vont abandonner toute leur richesse, leur maison. Ils vont tout abandonner. Ils vont s'en aller dans le désert, habiter de nouveau sous des tentes. La fête des tentes va reprendre à nouveau sa vie, va s'accomplir à nouveau pour eux les Juifs. Et pour nous aussi, pour les gentils, il nous faut abandonner, s'humilier, renoncer à nous-mêmes pour être transformés, pour monter avec lui. Si on est attaché aux choses de la terre, si notre cœur est dans les choses de la terre, nous ne monterons pas. Notre cœur va rester ici bas. Nous serons retranchés. La porte va être fermée. Mais si notre cœur est dans les choses célestes, si nous nous humilions, nous reconnaissons notre nudité spirituelle et que nous crions constamment vers Dieu, pour que lui pardonne, couvre nos péchés, pour que sa justice nous revête comme un vêtement, alors nous monterons avec lui, et nous serons transformés avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.